5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Le riz est plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il a plus de gènes.
Celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus.
Eh bien oui, nouveau numéro de l'auberge espagnole, un numéro un peu spécial puisque nous n'aurons que deux plateaux au lieu de trois habituellement. Pourquoi ceci ? Eh bien tout simplement, car vous le savez, les intempéries ont occasionné bien des gênes à des participants qui devaient venir et qui ne viendront pas, nous ont-ils dit. En conséquence de quoi, nous n'aurons donc que deux plateaux. Le premier, nous recevrons M. Paulet, qui est le directeur de l'Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs, et le deuxième sera donc totalement musical, puisque ce sera donc Adrien Pfeffer, le responsable du JAM, qui viendra donc nous présenter la saison 2014-2015. Monsieur Paulet, bonjour.
Bonjour.
Et donc, ravi de vous recevoir dans nos studios pour venir nous présenter votre association, dont on peut dire que le nom est long, et je l'ai fait exprès de tout citer, parce que si on le fait en termes de logo et d'abréviation, peut-être que les gens n'auraient pas su ce que cela signifiait.
Le mot est long, soit, mais chaque lettre a un sens.
Oui, effectivement. Et donc, vous êtes donc ce directeur de cette association pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. Ça signifie que vous apportez donc une aide aux gens en difficulté, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et même au-delà.
Notre association accompagne donc les enfants du plus bas âge, autour de 10-11 mois pour les plus jeunes, jusqu'au plus grand âge. C'est-à-dire que nous avons un service enfant qui va accompagner de 10-11 mois jusqu'à 18 voire 20 ans en fonction des études de l'enfant. Et nous avons ensuite des services qui continuent pour aller jusqu'à une tranche d'âge de 60 ans.
Voilà. Et donc, si nous prenons on va prendre les enfants, si vous voulez bien, on pourrait penser que peut-être le rôle normal aurait été de créer une école spécifique pour ces enfants-là, mais vous, votre démarche n'est pas tout à fait celle-ci. Elle est pour l'intégration de ces enfants dans des écoles normales, disons.
Alors là, on remonte aux sources de l'association, puisque dans les années 75, un groupe de parents n'acceptait plus, et ils étaient déterminés sur ces points-là, que leurs enfants leur soient retirés et accueillis dans des établissements spécialisés. Et donc avec l'aide d'un professeur montpelliérain, le professeur Dangean, qui était chef de service ORL à l'époque, ils ont porté leurs idées auprès des élus, auprès des financeurs, pour poursuivre plusieurs objectifs que les capacités de l'enfant sourd ne soient pas niées, parce que forcément, quand on n'a pas d'ambition pour un enfant, on ne va pas non plus aller vers des sommets en termes d'intégration. Que l'apprentissage du langage et de la langue orale soit considéré comme inaccessible, ce qui était faux à l'époque et toujours aujourd'hui. Et qu'enfin, l'intégration en milieu ordinaire soit considérée comme quelque chose de possible. Et donc, à l'époque, ils ont mené ces combats pour que les enfants soient intégrés à l'école du village et donc ne leur soient pas retirés sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon.
Et si on faisait un résultat global de ce qui a été fait, de ce qui existe aujourd'hui, quel résultat pourriez-vous nous communiquer ?
Eh bien, c'est une construction. Avoir des parents impliqués dans un conseil d'administration, ça nécessite une prise avec la société civile, avec ses besoins. Vous me demandez tout à l'heure pourquoi nous avions des services enfants-adultes. Bien parce que les enfants d'origine qui ont été accueillis en 1980 ont grandi et leurs besoins ont bien sûr évolué et les services qui se sont créés ont répondu également à ces besoins en évolution. Alors en termes d'évaluation, on a suivi depuis les débuts de l'ouverture de l'Arieda, donc en 1981 précisément, on a suivi en moyenne, avec les augmentations de capacité, 100 enfants par an. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 160 places. Donc nous suivons aujourd'hui 164-165 enfants sur l'ensemble de la région.
Ensemble de la région, ça signifie les 5 départements du Languedoc-Roussillon.
Les 5 départements, avec des endroits les plus inaccessibles possibles, quand vous devez aller à Font-Romeu au mois de janvier, bon, la route n'est pas simple. Donc on a par exemple un enfant à Font-Romeu, nous en avons un autre sur Langogne, nous en avons sur les 5 départements. Mais ça donne vraiment du sens à la santé de proximité. Donc on est très, très attentif là-dessus. Il faut que l'enfant puisse s'épanouir dans son lieu de vie sociale auprès de ses parents et à l'école du village.
Et donc pour cela, vous avez, je pense, des antennes régionales, dirons-nous, qui permettent aux gens de s'adresser directement à ces antennes régionales, ou est-ce que tout est centralisé à Montpellier ?
Alors, nous avons une organisation qui est très particulière. Nous avons un noyau sur Montpellier qui va se déplacer dans les régions, donc ce sont des psychologues coordinateurs, 7. Et nous avons sur chaque département, sur chaque lieu, nous recrutons des professionnels sur les chaque, à tous les coins de la région. Donc la famille choisit son orthophoniste, au niveau de la rééducation, pour la parole, pour le langage. Et nous, nous avons des éducateurs fonctionnels qui sont spécialisés dans l'acquisition, dans la pédagogie, qui vont travailler en partenariat avec l'orthophoniste, choisi par la famille, mais qui est employé également par l'association, et le psychologue coordinateur pour travailler autour de l'enfant. Le psychologue coordinateur, lui, a pour rôle d'avoir une approche systémique autour de la famille, puisqu'avoir un enfant handicapé, ce n'est pas toujours simple. Ça ne se vit pas toujours de la meilleure des façons pour les parents, pour les frères et pour les sœurs. Le psychologue va travailler sur cette compréhension de la surdité et comment se positionner face à ça, comment communiquer avec l'enfant sourd. Et puis, il va travailler aussi avec tous les partenaires de l'environnement pour coordonner les actions, notamment l'éducation nationale, qui est un de nos partenaires privilégiés.
Vous indiquiez difficultés avec les parents et entre frères et sœurs. Et ma question est tout à fait celle d'un béotien. Pourquoi dans une famille, un enfant est-il sourd et pas les autres ?
Alors, il y a une prévalence en termes d'hérédité pour la surdité. Il y a aussi des problèmes lorsqu'il y a des enfants prématurés, par exemple. Et puis, il y a des défaits qui sont inexplicables, hein, des enfants qui arrivent sourds. On a une situation où les parents font tous deux de la musique à un très haut niveau, et puis eh bien, ils ont un enfant sourd. Donc c'est le comble. Hein. Les parents musiciens et un enfant sourd, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour des parents. Donc on travaille sur l'acceptation du handicap. Ce n'est pas parce qu'un enfant est sourd qu'il ne faut pas lui parler. Hein. Donc ça veut dire que c'est avant tout un enfant, ce n'est pas un handicapé. Donc chaque enfant est un enfant, et le handicap, ben, c'est quelque chose qu'il faut compenser. Et nous, nous y travaillons au quotidien avec les éducateurs, les psys, les orthophonistes.
À une époque, il y avait à Béziers, vous le savez sans doute, une clinique spécialisée, celle du professeur Coste, qui, soi-disant, réussissait des prodiges par rapport à la surdité. Je ne sais pas si elle existe encore.
Elle existe encore.
Et vous avez l'air sceptique.
Mais je ne peux pas vous parler du passé, puisque moi, je suis là que depuis un an. Donc, je ne suis pas sceptique du tout, mais je n'ai pas... Je n'ai pas sincèrement d'informations à vous donner avec cet établissement. Nous travaillions, nous, énormément avec l'Institut Saint-Pierre de Palavas.
De Palavas-les-Flots, oui.
Voilà.
Parce que moi, j'habitais Palavas-les-Flots. Oui. Qui, précédemment, était plutôt dédié aux handicapés moteurs.
Oui.
Et j'ignorais complètement qu'il y avait une spécificité, une spécialisation dans la surdité.
Oui, il y a un service audio-phonologie maintenant qui est dirigé par le professeur Steckers, avec qui nous travaillons parfaitement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a au niveau du dépistage de la surdité aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui s'est mis en place au niveau national avec un cahier des charges. Et nous arrivons maintenant à avoir des dépistages néonataux avec une prise en charge de la surdité au plus tôt, sachant que pour qu'on puisse avoir une bonne rééducation au niveau de la surdité, plus l'appareillage prothèse ou appareil auditif ou implant sont mis en place, plus tôt démarre la rééducation, plus meilleur est le résultat. On a des enfants qui sortent de Palavas à 4 ou 5 ans qui oralisent parfaitement. Alors quand je parle d'oralisation, notre projet, nous, c'est un projet d'acquisition du langage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui doit être accessible aux enfants et il n'est pas accessible à tous les enfants. Et de plus, il y a besoin, à l'âge adulte ou autre, de compléments pour certains. C'est-à-dire que pour les enfants pour qui ce n'est pas accessible, eh bien, il faut travailler sur un autre langage à ce moment-là. Donc nous avons notre plateau technique qui est articulé autour de l'acquisition du langage. Lorsqu'on perçoit des difficultés pour un enfant, on fait intervenir à ce moment-là un interprète en LSF pour voir si on peut travailler dans ce sens-là, sachant que nous ne sommes pas spécialisés au niveau des enfants sur l'apprentissage de la LSF. À ce moment-là, nous travaillons en collaboration avec d'autres associations, telles le CESDA, CESDA Montpellier, CESDA Toulouse, pour réorienter les enfants vers ce type d'apprentissage.
Et est-ce que vous parlez d'apprendre justement, on va dire, à parler, est-ce qu'on peut dire que l'éducation d'un enfant sourd ressemble à l'éducation qu'un enfant, on va dire normal, entre parenthèses, reçoit à l'école ?
L'éducation d'un enfant sourd, c'est un investissement énorme. Énorme pour l'enfant, énorme pour la famille et pour les enseignants. Pour l'enfant, quand on accompagne un enfant, généralement, il y a 2, 3 ou 4 heures d'orthophonie par semaine. Il y a de 2 à 4 ou 5 heures d'éducateur fonctionnel par semaine. Ce qui veut dire qu'un enfant va avoir 8 heures de sa vie d'enfant qui vont être consacrées à la compensation de son handicap. Si un enfant va démarcher nous une prise en charge à 6 ans et qu'il en sort à 14, 15 ans, ben ça lui fait 10 ans quasiment, avec 8 heures de moins par semaine d'insouciance, entre guillemets. Donc l'investissement est important. Quand un enfant travaille sur un projet d'acquisition du langage, donc il a ou un appareillage ou un implant, il va percevoir des sons, il n'entend pas, il perçoit des sons, et il va recomposer les sons donc avec ce qu'il va lire sur les lèvres de la personne et avec le contexte. Et donc, ce tiers, c'est la suppléance mentale. Il est sans cesse face à un puzzle qu'il doit reconstituer. Donc, l'investissement pour l'enfant dans une école est très difficile. Donc, les éducateurs travaillent en amont des programmes de façon à pouvoir faciliter l'accès aux apprentissages de l'enfant, comme ça, il connaît le contexte. Et ils travaillent aussi sur la reprise des enseignements. Pour exemple, on a des résultats très intéressants. Cette année, on avait 12 enfants qui passaient le bac. 11 l'ont eu, dont des bacs S, dont un qui est parti faire une école de kiné, etc. Donc on a des résultats probants. L'objectif, ce n'est pas de faire que des enfants d'un bon niveau scolaire. C'est aussi de faire des adultes en devenir intégrés dans une société civile. Nous avons fait réaliser en 2012, par le CREAI, une étude sur que sont-ils devenus 30 ans après. Cette étude doit bientôt être publiée. Et donc, nous avons des résultats assez probants en termes d'intégration d'adultes. Ceci dit, lorsque les enfants ont acquis un langage, il est parfois nécessaire de coupler avec de la langue des signes française parce que, comme je vous l'ai expliqué, ça demande une concentration sur l'interlocuteur. Et dans le cadre de réunions ou de conférences, avec les perturbations de bruit, les parasites, il est nécessaire d'avoir une autre personne qui va suppléer un peu ce que perçoit l'enfant. Donc c'est des choses que l'on met, mais davantage sur les services adultes.
Et justement, pour les adultes, vous participez, je suppose, évidemment, à l'intégration dans le monde du travail également.
Bien sûr. Donc, lorsque les enfants de 1980 ont grandi, l'ARIEDA a créé à l'époque le SIGE, Service d'insertion des jeunes sourds. Donc ce service comprend deux services, le pôle études supérieures, donc nous accompagnons également les enfants dans les études supérieures au niveau de l'université de Montpellier 1, Montpellier 2, et sur les BTS, DUT de toute la région. Pour cela, nous travaillons en partenariat avec le rectorat qui finance l'accompagnement. Donc nous sommes sur des prises de notes, sur de la reformulation, sur l'accompagnement aux examens vis-à-vis de ces jeunes-là. Ensuite, nous avons le service adulte, le dispositif emploi-formation, qui lui accompagne les adultes de 20 à 60 ans sur des projets de formation, sur des projets d'emploi. Ce service-là est financé par la GFIP. Vous savez que tous les employeurs doivent payer une amende, etc. Et donc la GFIP nous a mis en place un marché, un appel d'offres que nous avons obtenu, que nous avons depuis 20 ans, et qui nous permet d'accompagner sur l'ensemble de la région, encore une fois, les adultes sur différents postes. Nous travaillons avec différents partenaires, avec La Poste, avec Auchan, avec Orange, plein d'entreprises qui nous font confiance et auprès de qui nous accompagnons ou sur des évaluations de compétences ou sur des périodes d'entretien d'embauche ou sur des périodes d'intégration dans le milieu du travail. Pour exemple, l'an passé, nous avons accompagné 230-240 adultes dans ce cadre-là.
Et est-ce que la solution la plus extrême, si je puis dire, dans la réalisation n'est pas que un handicapé déficient auditif crée sa propre entreprise.
Il y en a qui en ont créé aussi, des auto-entrepreneurs, ça existe également. Donc on est dans une politique d'insertion, d'intégration, mais à tous les niveaux. Je pense que c'est une ambition qu'on doit porter, c'est pas simplement une obligation qui nous est faite par le marché public, mais je crois que j'entendais la semaine dernière sur une réunion où on disait que les enfants handicapés plus tard allaient grandir et allaient coûter de l'argent aussi. Moi je crois que si on accompagne correctement un enfant handicapé, si on lui donne de bons moyens de compensation, ben c'est un investissement pour l'avenir, parce qu'il deviendra un adulte intégré. C'est une question de vouloir, c'est une question de combattre un peu ces inégalités et d'avoir vraiment envie d'intégrer les personnes. On le voit sur l'éducation nationale, on tombe sur des enseignants qui sont formidables, qui vont créer faire des miracles d'invention pour arriver à intégrer un enfant. D'autres, un peu moins convaincus, qui ont d'autres difficultés dans leur classe ou autre. Mais c'est une question de volonté individuelle et collective.
Et je suppose que, justement, un enfant en déficient auditif qui arrive dans une classe, on va dire, pas forcément maternelle, mais d'ado, la réception des autres enfants, vous pouvez deux mots ?
Oui, alors bon, déjà, un enfant sourd qui arrive à l'âge ado, il a des problèmes d'ado, pour commencer. Et après, il a des problèmes qui sont aussi liés à son handicap. Et c'est vrai que lorsqu'on est ado, la force du groupe, l'identification au groupe, etc., fait qu'il y a d'autres problèmes qui surgissent. Alors, quand un enfant arrive dans un lycée, par exemple, nous avons ce qui s'appelle une sensibilisation. On fait une sensibilisation auprès de la classe et de l'enseignant, avec l'accord du jeune et de la famille, parce que parfois, il y a des enfants qui refusent. On a par exemple un jeune qui refusait que nous intervenions sur le lycée. Bon, c'est tout. On prend en compte cette demande. Mais généralement, ça se passe très bien. On diffuse un petit film. On explique ce que c'est que la surdité. On explique les conséquences de la surdité. Et je crois que c'est aussi une grande... On permet aussi une ouverture un peu sur le handicap. Je crois que c'est généralement bien perçu.
Bien, donc... Question pratique, je suis parent d'un enfant déficient auditif, je peux m'adresser directement à vous ?
Si vous nous téléphonez pour un enfant, par exemple, ça veut dire que vous serez passé par différents services qui auront détecté la surdité, vous serez peut-être déjà passé par l'Institut Saint-Pierre ou par le CHUS, juste dans le cadre d'une implantation, et donc vous pouvez vous adresser à nos guichets, on va vous conseiller, on vous donnera donc la marche à suivre pour être à demi chez nous. Éventuellement, on vous accompagnera sur les démarches administratives. Et puis, bien sûr, le dossier de votre enfant sera constitué. Et nous avons tous les ans une commission d'admission qui, en fonction du nombre de places, admet les enfants qui sont, entre guillemets, prioritaires, sachant qu'ils sont tous prioritaires. Pour exemple, cette année, nous avons admis 16 enfants parce qu'il n'y avait que 16 places. Il y avait 37 demandes. Ceci dit... Pour ceux qui ne sont pas admis, nous proposons un accompagnement allégé qui permet aux parents de ne pas rester seuls dans la nature.
Peut-être serait-il bon de donner et l'adresse de Montpellier et au moins le numéro de téléphone et peut-être un site web si vous avez. Suppose que oui.
Oui. Alors l'adresse, c'est Arrieda, donc 2446 avenue du Père Soulas. Et puis le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, veuillez m'excuser. 04 99 23 27 70. Pour ce qui est du site internet qui est actuellement en maintenance. Nous avons aussi d'autres services qui peuvent accueillir les adultes sourds en difficulté sociale, avec l'interprétariat en LSF, bien sûr. Et donc ce service est installé dans le quartier des Cévennes. Et donc il est accessible à toute personne sourde ou qui a un conjoint sourd, qui veut des renseignements, un accompagnement sur l'administratif, le logement, etc. Nous intervenons aussi au niveau des ETEC, de l'évaluation de la prestation de compensation pour les personnes handicapées. Et nous avons aussi un service formation qui forme les personnes à l'ALSF. Et ce service est accessible à tout le monde. Nous avons des cours dans la journée et des cours du soir qui viennent de redémarrer. Voilà. Donc à ce numéro, vous pouvez avoir toutes les informations possibles. Et dans... D'ici un mois, le site sera remis en ligne.
Qui dit association dit parfois bénévole.
Oui.
Et est-ce que dans votre association, compte tenu de l'action que vous menez, des bénévoles peuvent venir vous assister ou pas du tout ?
C'est une réflexion aujourd'hui. Alors, déjà, les premiers bénévoles, ce sont les parents qui sont investis dans le conseil d'administration. Donc, il y en a qui sont là depuis les débuts. Il y en a un peut-être qui se reconnaîtra d'ailleurs. Il y a ce que j'appelle des canaux historiques. Et puis, il y a des parents qui parfois nous aident sur des accompagnements, sur des sorties, puisque en plus de l'accompagnement en intégration scolaire et au niveau de la famille, nous proposons aussi des activités extrascolaires. Parce que là, un enfant, ce n'est pas que de l'école, c'est aussi des loisirs, c'est aussi la rencontre d'autres enfants, c'est aussi la rencontre avec d'autres enfants sourds qui lui permet aussi de s'identifier, c'est aussi la rencontre avec d'autres enfants sourds mais qui sont plus âgés, parce que parfois... Les enfants ont du mal à se projeter dans une vie d'adulte sourd, par exemple. Donc, ces rencontres permettent ce genre de choses. On a aussi des réunions le samedi pour les parents sur différents thèmes liés à la surdité.
Très bien. Donc, vous avez des actions tellement vastes qu'il faudrait passer des heures pour parler presque de chacune. Mais je crois qu'il est important pour nos auditeurs de savoir donc si vous avez un enfant déficient ou si vous êtes adulte déficient auditif, eh bien, en se renseignant auprès de M. Paulet et de ses différents services, vous allez pouvoir trouver quand même une aide non négligeable qui vous permettra d'être accompagné jusqu'à un certain niveau qui vous rendra votre autonomie. Je crois qu'on peut le résumer ainsi.
Une aide ou une orientation. On a, comme dans les valeurs, le mot dignité. Pour moi, la dignité, c'est on prend en compte la personne, on prend en charge la personne si on le peut. Et si on ne le peut pas, on l'accompagne vers un partenaire adapté, identifié, qui lui pourra l'accompagner convenablement. On n'est pas seul au monde, on a plein de partenaires qui travaillent très bien également et on travaille au milieu de tout cet environnement. Et l'objet de l'action sociale aussi, c'est d'éviter les doublons et de bien identifier les différents partenaires.
Je crois qu'on a à peu près, si on peut dire, résumé la quasi-totalité de vos actions. On va quand même, je pense qu'il faut le faire répéter l'adresse. Donc c'est, là, je répète en totalité le titre, l'Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs. L'adresse de Montpellier, 2446 avenue du Père Soulas. Et si vous voulez bien redonner le numéro de téléphone, M. Paulet.
Bien sûr, le 04 99 23 27 70.
Très bien, il me reste vraiment à vous remercier d'être venu nous voir. Et puis je pense qu'on se reverra parce qu'on a, un petit projet, mais on n'en parle pas.
On a une petite idée à
formaliser. On a une petite idée à réaliser. Je vous remercie encore une fois et en vous disant à très bientôt. Merci. Bien,
une bonne journée et merci à vous de m'avoir invité.
every little thing in its natural place, yeah.
Yeah.
revient donc après ce premier plateau consacré, on va dire, aux malentendants, un deuxième plateau tout à fait différent, puisque nous attendons, faut-il le dire, Adrien Dujean pour nous présenter d'une part la saison des concerts qui vont se dérouler à partir de demain soir, et nous avons la grande chance de recevoir ici dans nos studios Shakura Saïda, qui va se produire donc demain soir au JAM à 21h15. Good evening.
Hello. Hello.
How are you?
I'm good, thank you.
Yeah. And you are living in Toronto?
Oui, j'habite à Toronto, oui.
Ah, you speak French?
No, I don't. Seulement un petit peu, oui.
Seulement un petit peu. Oui. Et so, it's the first time you come in Montpellier?
Oui, c'est la première fois. Oui.
And do you play in other place in France before?
Oui, nous avons joué à Tournée d'Agenais et à le Euro Disney. Et il y a les autres places que nous devons jouer dans la semaine, oui.
Et peut-être me j'adresserai au tourneur alors les prochains concerts qui seront.
Oui, donc nous jouerons aussi à Avignon, au Thor, au Sonographe jeudi. Vendredi, nous serons au Bécard Blues Festival à Grande-Synthe, dans le Nord. Et samedi, nous serons au Rhino Jazz à Saint-Chamond.
Et it's a European tour?
Non, seulement en France.
Seulement en France. Oui. And just for this month?
Just for this week. Seulement pour cette semaine, c'est fini.
Ah.
Oui.
And after you come back in Toronto?
Oui, oui, je retournerai, oui.
Et you sent?
Alors en français?
Oui. Vous nous avez donné un CD, it's the first CD?
Non, c'est le troisième CD de moi. Le premier était Blueprint, le deuxième était Brown Sugar, et ça s'appelle Time. C'est une double CD maintenant.
Et c'est un CD réalisé avec des musiciens canadiens?
Avec beaucoup de musiciens canadiens, aussi les musiciens américains. Il y a 17 musiciens sur cette CD. Et j'ai produit ça avec un autre producteur. Et c'est une CD que j'écris la plupart de la chanson aussi.
Et demain soir, and tomorrow, how many musicians?
Seulement 4. They didn't have a big enough plane for all of them.
And you, do you play an instrument?
Pardon?
You. Do you
I play? Yes, I play the ukulele, mais c'est moi pour toi. Non, je ne joue pas l'instrument, non.
Et demain soir, il y aura un piano, une...
Un piano, basse, guitare et quoi d'autre? Une batterie, oui.
Go!
Music. Tomorrow, je pense que le jam va danser demain soir, Adrien.
Eh ben, j'espère bien. On commence fort et puissant cette année parce que du coup, demain, mercredi, donc chaque Roi Saïda au jam, c'est notre première production interne. On ouvre la saison donc avec elle. Et j'espère bien, oui, qu'on va faire vibrer un peu les poutres de cette salle mythique.
Merci.
Very good rhythm. Et on this CD...
Oui.
You said to me the guitarist was Donna.
Donna Grantis, yes. Oui. Donna et moi a joué sur deux CD ensemble. Et après cette CD, she left me. Et maintenant, elle joue avec Prince, avec Third Eye Girl.
Parce que Prince vient de sortir deux albums cette semaine.
Oui, exactement. And, yes.
Oui. Et donc, on va quand même indiquer le nom des musiciens demain.
Oui.
On keyboards, Johnny Dyke, mm-hmm. guitare, Paige Armstrong, mm-hmm. bass, Roger Williams, and drums, Tony Rabalo.
Oui, exactement, oui.
Did you play more and more with us? It's the first time you play?
With these musicians? No, what do you mean?
Ils font partie de...
En français?
Ils font partie déjà du groupe depuis longtemps.
Oui, avec cette musicien, oui. Avec Johnny, j'ai fait le Blues Caravan avec Roof Records en 2010. Et avec Paige, il est le baby de la groupe. Mais avec Roger et Tony, j'ai joué beaucoup de temps, un peu plus longtemps. Oui.
Et aujourd'hui, est-ce que je peux savoir quelle est un peu la situation d'une chanteuse comme vous au Canada? C'est facile, c'est difficile?
Je pense que tout est facile si tu veux quelque chose. Ouais.
Parce qu'en France, on peut dire, on manque un peu de salles de spectacle.
Oui.
Les musiciens ont du mal à trouver des lieux pour jouer.
Je pense que dans ce temps, si on veut jouer, si on veut chanter, on doit découvrir le nouveau mode pour faire ça qu'on veut faire. On doit toujours... You have to reinvent your style. Tu comprends?
Il faut sans arrêt réinventer son style.
Exactement. Et on doit toujours voir ça que les gens veulent Et on doit faire les actes avec le patient, mais avec un petit peu que ça que les gens veulent. C'est bien comme ça.
Et c'est très bien comme ça. Et donc, satisfaite de ce premier parcours en France, une bonne réception déjà dans quelques salles, et puis demain, ça va être...
Mais oui, j'aime beaucoup l'audience en France parce qu'il est très passionné.
Passionné.
Yeah. Et il me souvient. Non, they remember me.
Yeah. Je me rappelle.
They remember me from when I played before. Parce qu'avant, je jouais beaucoup en France. Mais pour les trois années, quatre années, je ne retournais pas en France.
Très bien. Et comment puis-je exprimer cela? Est-ce qu'une carrière d'une chanteuse comme vous, justement, à l'échelon international, c'est facile de trouver des lieux? Parce qu'en France, c'est peut-être plus facile en Europe qu'aux États-Unis, par exemple.
Je comprends.
Do you think it's more easy to play in France than in USA?
Je pense qu'avec le blues, c'est comme ça. 2008-2006 était plus facile jouer le blues en Europe parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le blues, qui aiment la musique vieux. Mais maintenant, il y a beaucoup de sociétés de blues en Amérique Nord. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment le blues, beaucoup de gens jeunes qui veulent jouer le blues. Alors, c'est plus facile maintenant pour jouer. Et pour moi, parce que je joue beaucoup de blues, mais aussi le petit peu de rock, c'est plus facile aussi parce que je peux jouer dans le festival de musique, le festival de folk, et aussi le festival un petit peu de rock, et aussi le festival de blues.
Et puis, je vous demandais comment êtes-vous devenue chanteuse de blues et quelles étaient vos influences?
Je pense que je chante le blues parce que c'est ça que je... C'est normal pour moi. Et je pense que les influences, c'est Nina Simone, Etta James, Big Maybelle, Big Mama Thornton, Irma Thomas, Carla Thomas, Gladys Knight, Clarence Thomas.
Coco Taylor et...
Pas Coco Taylor pour moi.
Non.
Non. Parce que ça, c'est un autre mode de blues. Pour moi, c'était la musique... j'ai écouté la musique de ma mère et de ma tante. De mes tantes. Et ça, c'est Clarence Carter, Wilson Pickett, Pop Staple, beaucoup de gospel. Et pour moi, le gospel était la première musique pour moi. Et après ça, je chante le blues parce que je ne peux pas chanter le gospel dans le club. Mais je ne peux pas dire mon Dieu dans le club avec le gospel, mais avec le blues, on peut crier « Ah, mon Dieu !» Et les gens disent autour « Oui, c'est bien, c'est bien !» C'est fou, mais oui.
Et justement, existe-t-il beaucoup de clubs de blues à Toronto et au Canada?
Non, il n'y a pas à Toronto. Il y a peut-être un ou trois de clubs de blues, mais je joue pas le blues en Toronto. J'ai fait beaucoup de tournées à Canada, de la festival à États-Unis et aussi en Europe.
Très bien.
Oui.
Et parce qu'en France, on a quand même quelques festivals de blues qui sont réputés, notamment celui de Cahors. Et vous préférez jouer dans un festival, dans un lieu plus important ou vraiment dans un club où on est plus près du public?
Les deux. Je pense que c'est le show différent. Pour moi, I don't care, c'est mes gars, je veux seulement chanter. Je veux que l'audience aime la musique et je veux que le sound est bien. Et ça, c'est tout.
Et par conséquent, on va rappeler que ce sera donc demain soir à 21h15. Adrien, vraiment une belle découverte?
Eh bien oui, mon cher Gérard, je pense que c'est une belle découverte. Tu sais qu'on avait initié l'an dernier déjà les mercredis du blues, qui ont bien fonctionné. Cette année, on réitère. Donc on commence carrément cette année par un mercredi du blues. C'est une première collaboration... Avec M. Guillaume qui est en face de moi, on va faire deux dates différentes. Donc demain, mercredi, avec Shakura Saïda, et on fait une autre date en novembre avec la New Blues Generation. Voilà, ce sera les deux dates qu'on fait en collaboration tous les deux. Je pense que moi, qui suis amoureux du blues, mais je pense que lui aussi. D'ailleurs, il pourra en dire deux mots sur cette New Blues Generation.
Oui, tout à fait. La New Blues Generation, donc c'est l'idée, c'est d'amener la nouvelle génération du blues américaine en Europe. Pour le premier plateau, donc cette soirée du 26 novembre, Adrien, c'est ça ?
C'est ça.
On aura Sean Holt, qui est le fils de Magic Slim, très célèbre, qui nous a quitté l'an dernier. On aura Tasha Taylor, qui est la fille de Johnny Taylor, le fameux chanteur de Stax. Et on aura Wayne Baker Brooks, qui est aussi le fils d'une des légendes du Chicago Blues, Lonnie Brooks. Voilà, donc le 26 novembre au Jam.
Donc le rendez-vous est pris pour le 26 novembre. On va quand même rappeler, parce qu'il faut vraiment que demain soir la salle soit pleine et que tout explose. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'avec Shakura, ça va le faire immédiatement. D'abord, ce qu'on a entendu avec le thème Time, effectivement. Donc demain soir, 21h15, tous au Jam, et nous y serons, nous, en tant que Divergence. Mais on ne sera pas les seuls. Et je suis certain que ce sera vraiment un gros, gros succès. Merci. Shakura, il me reste vraiment à vous remercier d'être venu nous voir, d'avoir parlé français, parce que je sais que ce n'est pas évident. Et moi, j'ai les mêmes difficultés que vous, mais en anglais, parce que je ne parle pas souvent anglais. Et en plus, avec l'accent du Midi, ça n'arrange pas les choses. Mais enfin, voilà, c'était vraiment un grand plaisir de vous voir. Et je serai donc demain soir aux Jam, vraiment pour participer à cette grande fête.
Merci, je vous en prie.
Merci beaucoup. Adrien, on va peut-être, nous, pendant que la musique diffuse, faire valoir aussi que le Jam, eh bien, ça commence demain, mais c'est un long, long parcours.
Oui, donc c'est un long parcours, oui, jusqu'à juin prochain. Donc on commence demain et on commence par une grosse semaine avec 4 concerts. Donc à partir du lendemain de Shakura, ce sera les jeudis découvertes, un jeudi gratuit avec Organic Trio qui sort de résidence du Jam. Et donc ça aussi, ce sera une belle découverte, c'est un tout nouvel album. On enchaînera vendredi avec l'Indigo, Maloya Power, pour les aficionados de la musique réunionnaise. Et samedi, on fera venir quand même Emmanuel Job, après toutes ces frasques dans la télé-réalité. On va quand même l'accueillir, et je pense que ce sera une belle soirée aussi. Voilà, voilà pour cette première semaine.
Ben nous, on se reverra au cours des semaines à venir pour expliquer un peu tout ce qui va se passer, parce que, faut-il le rappeler, nous sommes partenaires du Jam et très fiers de l'être. J'espère que c'est réciproque. Il me reste donc vraiment à vous rappeler.
Je voulais juste dire un petit mot, parce que j'en profite qu'on soit là. J'imagine que tu le sais, mais la semaine qui suit, on en reparlera peut-être, mais Scott Anderson vient nous faire un petit coucou et va venir quand même illuminer la lumière du Jam. Donc je compte aussi sur vous pour venir découvrir cet énorme musicien.
Énorme, donc on sera bien sûr là et on fera part de toutes les programmations à venir. Je vous rappelle donc demain soir, 21h15, le Jam, on va rappeler l'adresse, c'est 100 rue de Lesseps.
100 rue Ferdinand de Lesseps, oui.
Et le tram, comme ça on l'aura
dit. Le tram 4, arrêt Saint-Martin. Il est préférable de venir en tram, évidemment, on n'a pas beaucoup de place de parking, ça arrange tout le monde, voilà, si vous pouvez.
Peut-être serait-il aussi intéressant de rappeler le numéro de téléphone si on souhaite réserver.
Oui, 04 67 58 30 30.
Voilà, je crois qu'on a vraiment tout dit et il ne nous reste plus qu'à se régaler de ce que nous écoutons en mettant ça un tout petit peu plus fort. Par conséquent, à demain et pour nous, Adrien, à la semaine prochaine.
À très bientôt.
Merci.
Merci.
I'm a kitchen woman.
Oh, yeah.
I'm a kitchen woman. Disappear.